Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective, où nous sommes en train de faire littéralement la guerre à la guerre. En réalité, même si la saison 6 elle est dédiée à tout ce qui porte sur le collectif, à la puissance d'être à plusieurs, au fait de se regrouper, de composer avec notre environnement social, de faire dans le networking, de nous développer en ne comptant pas que sur nous-mêmes, la réalité c'est que de fil en aiguille, la guerre à la guerre, c'est bien la guerre contre nous-mêmes, parce que nous sommes pleins de travers, nous sommes beaucoup portés sur les travers sociaux, nous sommes beaucoup portés sur les préjudices moraux, sur les erreurs de jugement, sur les jugements hâtifs, sur tout un tas de choses, je vais dire ça comme ça, qui font qu'on retombe systématiquement dans cette saison 1 dédiée à la bestialité, où on vient croiser les mondes pour faire face à ces contradictions. Et seulement, à force de répéter ces cycles complètement à la manière d'un chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles et du roman de Lewis Carroll, eh bien on finit par être en retard, toujours en retard, à courir autour d'un poteau avec un dodo qui fait la chanson au milieu. Je vous invite à redécouvrir le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles, que ce soit en français ou en anglais, il est absolument génial, mais on en revient toujours à la même situation, c'est-à-dire quand c'est ce qu'on peut appeler ça un atavisme identitaire, c'est quelque chose qui revient tout le temps, en fait, qui fait partie de notre identité au point qu'on le revit de manière extrêmement cyclique. Et c'est un repli, en fin de compte, dans quelque chose que l'on maîtrise, qui est le fait de préférer vivre dans sa contradiction plutôt que d'y faire face et de se développer, de se métamorphoser. Alors, dans cet épisode, eh bien, je vais parler de l'imagination, parce que l'imagination n'est pas le mensonge. C'est une phrase que j'ai plusieurs fois répétée au cours des épisodes, au cours de Les Doigts dans le Miel, qui nous sort directement du Petit Nicolas, du livre écrit par Sempé, et magnifiquement raconté dans la peau d'un petit garçon qui s'appelle Nicolas, non pas en hommage à Nicolas Sarkozy, notre ancien président français, mais plutôt comme un petit gars du XXe siècle, qui évolue dans son école. D'ailleurs, c'est quasiment hors temps, puisque on pourrait le revivre encore aujourd'hui, mis à part le vocabulaire qui fait qu'il y a un côté un petit peu ancien, un petit peu old school. Et à l'intérieur d'un de ses bouquins, puisqu'il y en a plusieurs, il y a un des camarades du petit Nicolas qui fait un dessin et qui insulte son professeur en imaginant la classe lui courir après, lui jetant des cailloux, si ma mémoire est bonne. Et le professeur s'appelle Crastin. Et sur le dessin, il y a écrit « Crastin, salaud, la classe aura ta peau ». Alors, ça a beau être le rêve du petit enfant, c'est vrai que il y a une contradiction dans cette illustration qui est de voir toute une classe de petits gars, de petites filles courir après leur professeur pour lui casser la figure quelque part, et où finalement ils ont réussi à se lier autour d'une sorte de mission commune qui est de mettre à bas le symbole d'autorité que représente eh bien le personnage Crastin, qui est méchant, qui n'est pas compris surtout, et qui ne comprend pas comment bien communiquer avec ses enfants. Et seulement, c'est là toute la contradiction de notre monde. On est capable de se mettre ensemble pour servir les causes les plus dégueulasses, c'est-à-dire de détruire quelqu'un, de détruire les symboles, de détruire ce qui fait toute notre éducation, de détruire l'identité d'un professeur, par exemple. Et c'est ça, mine de rien, qui est mis en avant aussi dans cette histoire, et sans vouloir en faire une analyse, alors même que nous le reproduisons exactement dans notre vie de tous les jours. Parce que nous n'aimons pas les symboles, parce que nous n'aimons pas le pouvoir, parce que nous n'aimons pas l'image qu'il nous renvoie, parce que nous n'aimons pas la manière dont est pilotée telle ou telle institution, dont est gouverné notre pays, dont fonctionnent les États ensemble, dont on semble être réduit à l'état d'esclave sans avoir de boulet réellement enchaîné aux pieds. Ils sont plutôt dans nos têtes, et je vais y revenir. Mais justement pour exprimer eh bien, tout un tas de mécontentements qui sont en réalité eh bien, seulement des contradictions, des putains de contradictions. Et il faut le dire, c'est qu'au bout d'un moment, ces contradictions font de nous aussi leurs putains. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'arrêter d'être l'esclave de ce que l'on pense comme la réalité, en sachant que la réalité n'est pas du tout ce que l'on pense. C'est une notion de perception. La réalité, ce sont les choses qui se passent autour de nous. Notre perception compose avec ces choses-là pour nous les faire interpréter. Et il y a eh bien, ce qui s'appelle les philo-cognitifs, qui sont ces addicts à la pensée, qui sont extrêmement nombreux, qui sont de plus en plus visibles en réalité, puisqu'ils existaient déjà avant. et qui sont des extensions de ce qu'on pourrait appeler les multipotentiels, les zèbres, les hypersensibles, j'en passe et des meilleurs, parce que toutes ces appellations permettent de faire des classes, des catégories, de se relier à d'autres personnes, mais en fin de compte, elles ne sont pas tout à fait dans la réalité des faits qui sont que ce qui se passe au quotidien, c'est juste des choses qui sont faites ou pas. C'est le monde avance par les actions, notre environnement évolue en fonction de ce qui y est fait, pas en fonction de ce qui y est pensé. Alors, l'action peut être la traduction d'une pensée, qu'elle soit réfléchie ou non, mais la pensée n'est pas nécessairement traduite en action. Et ça, pour le coup, juste penser, ne pas en parler, ne pas agir, ne pas communiquer, ne pas faire valoir ses opinions, par exemple, ne pas faire valoir une doctrine, ne pas faire valoir une vision, son caractère, par exemple, ça ne fait clairement pas avancer le monde. Et ça nous fait retomber dans nos contradictions qui sont que, de toute façon, on n'a plus qu'à se plaindre, c'est vachement mieux ainsi. Et on revient encore à cet atavisme identitaire qui est le repli sur soi et sur des choses qui sont maîtrisées, c'est-à-dire le confort de la plainte, voire l'attentisme, et le repli dans une situation qui n'évolue pas et qui ne nous convient pas, mais dans laquelle on se trouve quand même mieux ainsi. Parce qu'au final, en se plaignant, on arrive à attirer l'attention d'autres personnes qui sont capables de se plaindre et de nous apporter le réconfort qui nous est dû, que l'on recherche en n'étant pas bien dans notre peau parce qu'on n'apprécie pas telle ou telle situation. En se plaignant, on nous apporte, je dis « on » et « nous », mais c'est « on », ce sont les autres, « nous », c'est « nous » et les autres. On nous apporte toutes ces petites choses qui nous manquent au quotidien et qui font que on reçoit une sorte d'amour virtuel, d'amour partagé, d'amour de soutien social lié à la paresse, lié à du laisser aller, lié à un ensemble de choses qui nous échappent finalement complètement ou qu'on préfère se laisser s'échapper malgré nous en se disant que de toute façon c'est pas bien ce qui se passe, etc. Enfin bref, je vais pas trop dériver là-dessus. Je vais en revenir à l'imagination n'est pas le mensonge. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est plutôt aussi une évolution liée au doigt dans le miel, au podcast Les Doigts dans le Miel, parce que ce que je vous raconte en permanence, et puisque c'est un podcast qui est quotidien, qui sort tous les jours à 7h, c'est de l'improvisation totale. C'est de l'improvisation, c'est-à-dire j'ai un titre, je vous raconte quelque chose qui est en lien avec ce titre et avec une histoire reliée au podcast qui est traduite à travers les 6 saisons et qui peut nous permettre de nous repérer en fonction de la temporalité qui est partagée par moi du coup et par vous quand vous prenez la parole ou quand vous me communiquez aussi vos idées. J'ai une pensée spéciale encore pour Marie-Cécile et Amina ces derniers temps et pour la marque Nubadji. Aussi parce que vous y contribuez, mine de rien, vous enrichissez mes réflexions, mes actions surtout. Et puis, j'aime beaucoup parler dans la théorie, j'aime beaucoup parler dans le concept, dans la métaphore, dans ces trucs-là. Mais ça a une vraie incidence sur mon quotidien, ça a de vrais impacts sur mon quotidien. Quand je vous dis que je suis passé de maçon à entrepreneur, que j'ai multiplié mon salaire par 10, que j'ai repris des études, que j'étudie en permanence, que je mène plusieurs projets en parallèle qui sont liés au conseil en stratégie, au développement personnel, au management, au consulting, à l'accompagnement, au coaching, au développement d'entreprise, etc., etc., en parallèle de faire le podcast et puis d'autres projets qui peuvent évoluer, comme l'écriture d'un livre, par exemple. D'ailleurs, c'est Marie-Cécile qui est... Enfin, c'est Marie-Cécile dont je vous parle qui est venue vers moi en me disant « Bah tiens, j'ai fait ma fouine parce que je suis curieuse et tu as écrit un livre. » Bah oui, j'ai écrit un livre. J'ai pas écrit juste un livre, j'ai écrit un livre sur ma vision de l'évolution de l'espèce commerciale, ce métier à la fois aimé, désiré, craint et détesté, qui est en pleine évolution et qui me concerne en permanence au quotidien. Eh bien, dans Les Doigts dans le Miel, c'est pareil, lié aux situations du quotidien. Je fais face à mes contradictions, je fais face à ma colère, je fais face à ma faim, je fais face à la paix, je fais face à mon potentiel et je fais face à la conscience collective. Et quand bien même tout cela ne serait pas extrêmement harmonieux comme dans un conte de fées, j'en ai rien à faire. Mon objectif, il est de me développer. J'ai un esprit de croissance, j'ai une mentalité de croissance, j'essaie de développer un esprit du collectif. Je dis j'essaye parce que C'est vachement difficile de faire avec les autres, c'est vachement difficile de faire avec soi, c'est vachement difficile de se faire la guerre à notre propre guerre, parce qu'on a tous nos démons en nous, de manière plus ou moins révélée, et en fonction des situations, eh bien, ils nous apparaissent de façon plus ou moins forte. Si je peux me permettre... Non, je ne vais pas me permettre de citer le prénom de cette personne, mais il m'a été communiqué un témoignage récent sur le fait que, quand je vous ai parlé, il y a quelques épisodes de cela, des points de blocage physiques qui sont en réalité la transposition de blocages psychologiques, de blocages émotionnels, et puis la traduction de quelque chose que vous sentez, que vous ressentez, que vous vivez, et une matérialisation de ces foutus blocages, eh bien, il m'a été partagé que, par exemple, pour décrocher un téléphone, en ayant été tout petit, eh bien, confronté à des situations où il fallait répondre au téléphone, en ayant été confronté pendant ses études à des situations où il fallait beaucoup téléphoner aussi, eh bien, aujourd'hui, quand il s'agit de passer un coup de téléphone à plus de 30 ans, eh bien, c'est juste l'angoisse, ce sont les sueurs froides, ce sont les tremblements, c'est le blocage, c'est on ne sait pas quoi dire, c'est j'arrive pas à décrocher le téléphone, c'est je ne veux pas décrocher le téléphone. Donc ça, ce sont des actions extrêmement concrètes qui peuvent être transformées au quotidien en arrivant à mettre le doigt dessus et en arrivant à faire face à nos contradictions. Mais ça demande aussi le courage de passer à l'action, parce que le courage, j'arrive entre le moment vécu, le présent, la peur par exemple, et puis ce point de blocage qui fait que de toute façon, notre corps reprend le contrôle en envoyant le signal suffisamment fort à notre cerveau qui lui dit « non, tu n'avanceras pas à ce moment-là ». Et donc on se replie encore sur nous-mêmes et dans nos habitudes et dans notre confort, quand bien même, on aimerait bien parfois ne plus avoir peur de décrocher le téléphone. Mais cela étant, on peut se faire violence, on peut aller au-delà de nos blocages, au-delà de nos peurs. Si on s'y prend pas très bien, eh bien, on progressera, mais on pourrait aussi abîmer la situation dans le sens où, eh bien, parfois, ça fait vraiment plus mal qu'autre chose. Alors, on pourrait continuer encore, mais surtout ne confondons pas notre progression avec notre souffrance, parce que mélanger les deux, c'est une erreur violente. Je vous invite à lire d'ailleurs Elisabeth Gilbert qui le partage de vive voix, mais plutôt oui, puisqu'elle est conférencière, mais aussi par ses écrits, et qui montre tout un tas d'artistes et chanteurs comme, je sais pas moi, Amy Winehouse, Elvis Presley, Kurt Cobain, on pourrait même passer par du Claude François, des personnes super connues, pas du tout heureuses dans leur peau, pas du tout bien dans leur basket, et qui ont fini par en mourir, que ce soit par le suicide, par des accidents, entre guillemets, par de la surconsommation de drogue, d'opiacés, de tout un tas de choses qui les font se sentir à la fois dans un profond désarroi, un peu comme si c'était un suicide social, et qui en même temps leur permettent d'extraire ce qu'il y a de plus puissant en eux, lié à la nostalgie, lié à leur tristesse, lié à leurs émotions les plus basses, et qui remontent comme ça à travers leurs chansons et leur état d'esprit, leur état d'être, et qui nous sont communiqués, eh bien, comme une douce mélancolie dans laquelle on peut se bercer, se reconnaître, se baigner et s'identifier surtout, parce que ces gens-là sont surtout extrêmement fragiles, et c'est ça qui nous touche au plus profond de nous, même si on a du mal à mettre le doigt dessus. Eh bien, c'est bien le côté cristallisé de ces identités qui sont tout à fait surprenantes, incroyables d'universalité et touchantes. Et donc, c'est la capacité à mettre le doigt sur certaines choses comme celles-ci qui nous font prendre conscience aussi que c'est pas parce qu'on ne va pas bien qu'on est obligé d'aller pas bien. On peut avoir complètement révolu ce modèle qui fait que on voit le monde à l'envers et on se projette de l'autre côté du miroir, non pas comme Alice cette fois, mais comme un moyen de se dire « Bah non, moi ce que je mérite, c'est de vivre quelque chose de difficile, de triste, de terrible. C'est ça que je mérite, c'est ça que j'ai développé depuis tout petit, c'est ça que l'environnement dans lequel je me construis, etc. » Et dans cette tristesse, je serai très bon. Dans cette mélancolie, je serai très bon. Dans cette difficulté, je serai très bon. Dans cette douleur, je serai puissant. Eh bien, c'est une erreur fondamentale. Comment voulez-vous vivre de manière épanouie, de manière extraordinaire, mais positivement extraordinaire, quand on a fini par associer la douleur à sa réussite? C'est un échec. C'est un échec qui conduit à des réussites. Et c'est là le paradoxe total. C'est que la mise en avant de ces profils qui souffrent énormément, eh bien, nous montre aussi une voie qui est le pendant de la réussite par le plaisir et par la joie et par le bonheur d'être, comme son alter ego. C'est le yin et le yang, c'est le noir et le blanc de manière extrêmement complète et complexe d'ailleurs, parce que ce qui est très simple à observer, à voir, est en réalité d'une complexité sociale qui n'a d'égal que la douleur, quelque part que l'échelle de douleur ou de plaisir d'ailleurs qui lui sont associées. Donc là-dessus, dans ce que je vous partage depuis la saison 1 sur un peu plus de 290 épisodes maintenant, eh bien c'est aussi une manière petit à petit, d'épisode en épisode, de sortir de ce que moi-même j'ai pu confondre comme une réalité viable qui était celle de la souffrance et de s'infliger beaucoup de choses, un peu comme un moyen d'autodestruction passif, c'est-à-dire que du jour après jour, on se dit qu'on ne mérite pas mieux et qu'on a le droit de passer uniquement par la voie la plus difficile parce qu'on veut prouver à quel point on est vaillant, parce qu'on veut se prouver, surtout à soi-même, à quel point on peut valoir mieux. Mais tout ça, ce sont des conneries. Ce sont des conneries phénoménales parce qu'elles n'ont de réalité que notre perception qui elle-même est une illusion. Notre perception, elle évolue en fonction de l'histoire qu'on se raconte. Si l'histoire qu'on se raconte, elle est naze, alors notre réalité, elle risque de l'être aussi. Ou en tout cas, ce qui est de manière induite, eh bien, la finalité, si elle est projetée comme étant naze, elle le sera jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout ce que vous ferez dans votre quotidien, même si vous n'en avez pas forcément conscience, eh bien, en réalité, ça ne vous mènera qu'à l'échec. Je vais prendre exemple sur quelqu'un qui gagne de l'argent, par exemple, qui est extrêmement dépensier, qui a de l'argent qui lui brûle entre les doigts, qui mériterait pourtant de pouvoir s'acheter une maison, etc., de pouvoir investir dans ses projets, eh bien, en réalité, qui va être incapable, mois après mois, de garder de l'argent de côté pour montrer à sa banque comme à quel point il est viable, à quel point il peut, emprunter de l'argent pour se construire un domicile, par exemple. Mais ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et que l'on gagne 1000 euros ou 10 000 euros par mois n'y change absolument rien. Le confort de vie dans lequel on est peut évoluer, mais la finalité, c'est qu'à la fin du mois, vous avez zéro. Et ça ne fait pas de différence entre quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et quelqu'un qui n'en gagne pas. Pire, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, on pourrait même se dire qu'il a des dettes plus importantes à équilibrer. Donc, bref, toujours est-il que la pauvreté, par exemple, l'incapacité de faire des économies, l'incapacité de gagner de l'argent de manière durable, de manière pérenne, non pas parce qu'on a un travail, mais parce qu'on se paye soi, eh bien, est une démonstration possible d'un manque de self-esteem, d'un manque d'estime de soi, d'un manque de valorisation de soi, d'un manque d'amour de soi, d'un manque d'écoute de soi. Parce que si on s'écoutait, si on s'aimait vraiment, eh bien, on y ferait plus attention et on arrêterait de se victimiser, on arrêterait de se sauver, on arrêterait de se persécuter, on arrêterait de vivre dans un triangle de la dramaturgie le plus total, un triangle de la dramaturgie associé au triangle de Carpman, la posture de sauveur, persécuteur et de victime au sens cercle vicieux. Eh bien, que ce soit parce qu'on se sent différent, parce que les autres sont pas comme nous, parce qu'il y a une coupure, une cassure émotionnelle, une cassure relationnelle, une cassure sociale, une fracture à un moment qui s'est créée. Eh bien, il y a un moment, les gars, va falloir faire ce deuil du narcissisme. Alors, je fais un raccourci parce que tout le monde n'est pas dans la même situation, mais il y en a beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, qui voudraient un peu plus la peine que de tuer pendant un temps leur ego narcissique. Ce serait une manière de prendre conscience, au moins, que pour évoluer, il va falloir faire un pas de côté par rapport à sa propre projection. Et la projection, je le rappelle, c'est un moyen de se jeter en avant pour être capable de passer dans la posture du coach, du challenger, du créateur, donc d'une dynamique d'empowerment qui est, par exemple, le fait de trouver des véhicules relationnels, des véhicules financiers, des véhicules qui peuvent nous permettre de mieux nous accepter auprès des autres, d'être plus heureux, parce que C'est une preuve de générosité qui peut apporter la reconnaissance et la valorisation dont beaucoup de gens souffrent, dont beaucoup de gens manquent. Et ça, afin d'en finir avec cette fameuse posture de victime. Et pour le coup, c'est très simple. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est plutôt une mission, parce que qui peut être associée à des objectifs, mais la mission, c'est le bonheur. Votre mission de vie, c'est le bonheur. Votre mission de vie, c'est d'être bien dans votre peau. Votre mission de vie, c'est de vous émanciper, c'est de rayonner à travers le monde. Et puis le monde, c'est comme dans la saison 1, bestialité, ça peut très bien être à échelle réduite. Il n'y a pas besoin de voir grand. On peut voir déjà à l'échelle de sa famille, à l'échelle de son quartier, à l'échelle de son bourg, à l'échelle de sa ville. Après, on a le droit aussi d'avoir des ambitions qui sont mondiales, qui sont interplanétaires même. Je pense à Elon Musk, par exemple, qui a une unique vocation, qui est d'amasser le plus grand nombre d'assets possibles, c'est-à-dire des éléments qui lui apportent de l'argent pour financer, pour conquérir l'espace et rendre la vie multiplanétaire. Ça, c'est une réalité possible. Et justement, elle est totalement liée avec l'imagination, parce qu'un tel projet ne se conçoit pas sous prétexte que l'on est pragmatique. Bien sûr que oui, c'est possible, mais faut-il être un peu fou pour, aux yeux des autres, pour s'y prendre, pour le réaliser et surtout pour l'accomplir? Parce que, mine de rien, il faut partir de loin. Il faut amasser beaucoup d'argent, il faut amasser beaucoup de connaissances, il faut avoir du culot, il faut être reconnu, il faut embaucher d'autres gens, il faut travailler avec de nombreuses organisations, il faut être capable de mettre en branle toute une machinerie qui va nous permettre d'utiliser, de manager, de développer tout un tas de ressources, de moyens pour accomplir cette mission. Et c'est une vision qui est... elle n'est pas révolutionnaire, mais l'acte en soi, lui, est révolutionnaire. La mission, il y en a plein de gens qui ont rêvé d'habiter sur une autre planète. Mais qui l'a fait ? Pour l'instant, personne. Personne n'a vraiment vécu sur une autre planète. Il y a des personnes qui ont été sur la Lune, mais elles n'y ont pas vécu en soi. Et puis la Lune n'est pas considérée comme une planète, c'est un satellite par rapport à la Terre, qui est en rotation autour de la Terre d'ailleurs. Donc on en revient à quelle est votre capacité à imaginer des situations nouvelles. C'est quoi votre champ des possibles? C'est quoi votre champ des impossibles? C'est pas toujours évident d'imaginer tout ce qui est possible. Alors on peut s'atteler à décrire l'inverse. Qu'est-ce qui n'est pas possible dans ma vie? Est-ce que je ne peux pas gagner deux fois plus d'argent? Pourquoi? Est-ce que je suis un tocard? Non. Bah alors, qu'est-ce qui m'en empêche? L'envie? Le besoin? Je ne sais pas par où m'y prendre. Ah, mais c'est différent dans ce cas-là. C'est peut-être que je ne connais juste pas la voie pour y aller. Mais c'est comme une balade. Une balade qui amène à une montagne, qui amène à une forêt, qui amène à la mer, qui amène à un lac, qui amène à tout un tas de découvertes, qui amène à des rencontres et qui amène à des possibles. Et au final, si votre but, c'était d'aller voir un désert, bah, vous aurez peut-être eu besoin de passer par toutes ces étapes pour pouvoir trouver le désert. Et puis peut-être qu'au gré de votre marche, eh bien, en fait, vous l'aurez trouvé tout de suite. Tout est lié à notre perception et à notre capacité à traiter l'information, à notre capacité cognitive à traiter l'information. Notre cerveau est une machine de combat, une machine de guerre animale qui nous permet d'analyser l'information autour de nous en fonction de tout un tas d'expériences vécues. Seulement, il est feignant parce qu'il a tendance à nous rappeler à quel point le confort, c'est d'être bien une fois qu'on a à manger et un toit pour vivre, parce qu'on est en sécurité. Et c'est la sensation d'être dans la sécurité, les peurs que l'on développe à ne pas prendre à bras le corps le changement, qui font que l'on est dans la plus grande insécurité en réalité quand le temps passe. Parce que quand vous avez pris le pli pendant 40 ans de ne surtout pas changer, de ne surtout pas évoluer, au moment où vous devez parfois vous secouer les puces pour atteindre un autre niveau, parce que votre situation ne vous laisse pas le choix, vous vous rendez compte que il va falloir faire face à vos contradictions. Donc je vais prendre des exemples que moi j'ai pu vivre ces derniers temps, qui sont le fait de, multiplier mon salaire par 10 en pas très longtemps en plus. Je passais d'un statut de repreneur d'études alternance, MICAR, pendant plusieurs années, à la bord de je veux pas dire de l'échec social, mais à devoir cumuler plusieurs jobs, des projets à côté, enfin des trucs comme ça, qui me faisaient clairement passer pour un cas social selon mon degré de réussite financière, mon degré de réussite sociale, pour passer quelques années plus tard à un salaire x10, à des missions, à de la reconnaissance sociale, à de la réussite. Mais tout ça n'est que temporaire. C'est aussi une forme de cycle. Peut-être que demain... D'ailleurs, le modèle que j'ai développé, que je vous ai partagé, lié à mon fameux petit tableau, et j'en reparlerai plus tard, pas dans cet épisode, mais plus tard, il vise aussi à ne pas retomber dans ces mêmes travers-là, parce que c'est très facile de revivre les expériences du passé quand on découvre quelque chose de nouveau. Donc ce que je vous ai partagé pendant les dernières semaines, les derniers mois, est totalement lié à mon quotidien et à cette capacité que d'imaginer de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses parce que je m'en donne les moyens et surtout que je le fais à mon rythme. Je veux aller super vite, mais je suis un gros lambin par rapport à d'autres qui vont 5 fois plus vite que moi, 20 fois plus vite que moi. Et en même temps, je suis un gros lambin par rapport à d'autres, mais je suis une fusée par rapport à encore plein d'autres. Donc, tout ça est relatif et j'en ai strictement rien à faire parce que me comparer aux autres n'a plus aucun sens. Me comparer aux autres permet, oui, de temps en temps, de se positionner d'un point de vue social, par exemple, pour établir les tarifs, pour se dire, ok, moi j'ai ça, toi t'as ça, bon, on est pareil, nous on n'est pas pareil, bon, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'atteigne ta place, ah, toi, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qu'il faudrait pour que t'atteigne ma place, ok. Mais sur le plan de moi-même, c'est plus un critère qui compte. Ça devient quelque chose de limite secondaire, tertiaire, et encore, c'est en train de disparaître petit à petit, parce que c'est comme une sorte de sable mouvant, il y a des choses dont on se rend compte que l'imagination n'a pas besoin, et comme point de repère, et comme plan de réussite, et comme moyen de s'accomplir, etc. etc. Donc, pensez grand, pensez... C'est plus facile de penser grand pour revenir à petit que de penser petit pour aller grand. Mais pensez vachement grand. Développez votre boîte à Londres, apprenez l'anglais sur le tas, économisez 6 mois de salaire et démerdez-vous, allez, payez-vous un appart pour 6 mois et déménagez-y. Et je me lance aussi cette phrase pour mon futur, parce que ça me servira. C'est tout un tas de mécanismes pratiques qui sont à mettre en œuvre pour arriver à sortir, par exemple, d'un travail extrêmement manuel, où tout ce dont on a besoin, c'est de savoir manier un marteau pour taper sur du béton armé, pour taper sur des bouts de fer, pour taper sur des bouts de bois, pour taper sur des pointes, pour taper sur des étais, pour taper sur du plancher, pour taper sur tout ce qu'on peut finalement. Voilà, c'était ça mon travail avant. J'ai commencé par ramasser des cailloux sur des vieux chantiers perdus dans le fin fond de la Bretagne, tout simplement parce que c'était une manière pour mon chef de l'époque de jauger et de juger de ma motivation. J'étais pas motivé. Déplacer des cailloux dans un seau avec une pelle, des gros cailloux qui font 5 à 10 kilos parfois, avec une pelle. Et je sais pas si vous avez déjà essayé, mais 8 heures par jour. Je vous dis qu'au début du 10e jour, plutôt, j'avais les mains qui étaient en sang, parce que j'avais les cloques sur les mains de la veille qui avaient complètement éclaté. J'ai rien dit, j'ai serré les dents, et j'ai continué. Et le surlendemain, et puis le jeudi, et puis le vendredi. Et la semaine suivante, ça a commencé à cicatriser. Alors j'en ai chié, j'avais des bandages, des gants, etc. Mais au bout d'un moment, c'est passé. Et cette période difficile, elle a permis de transformer eh bien, une contrainte en un atout, parce qu'en fait, c'était tellement dur et tellement fatigant que du coup, ça ne posait plus de problème de faire d'autres choses qui étaient aussi fatigantes et sur lesquelles il fallait plus s'impliquer, parce que je savais que c'était des choses que je voulais plus faire. Bon, bah ça me permettait d'envisager de sortir d'un environnement social pour aller dans un autre. Et c'est comme ça dans tous les environnements. On repart de quasiment zéro à chaque fois qu'on arrive quelque part de nouveau. Seulement, vous repartez de zéro par rapport à votre connaissance du milieu. Mais toute votre expérience, elle est acquise. La méthodologie, la capacité d'adaptation, la capacité de réflexion, le recoupement de situations, enfin, toutes ces choses-là, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, mental et physique, eh bien, ça vous permet d'être plus résistant à l'échec et plus persévérant dans vos réussites, pour vos réussites, pour réussir. Et encore faut-il, là, arriver à décliner vos pensées en ce à quoi elles correspondent pour dire « j'ai réussi ». L'atteinte d'objectifs, la réponse à une mission, etc. etc. Donc, l'imagination, elle est bloquée d'abord parce qu'on pense que l'imagination s'appelle l'imagination et n'est que l'imagination. On tue l'imagination à partir du moment où on dit que c'est l'imagination. C'est-à-dire quand on ne lui donne pas d'autre sens que ce à quoi nous sert, imaginer, c'est foutu. L'imagination sert à agir. L'imagination sert à faire. L'imagination sert à inventer. Un inventeur est un imaginatif qui a créé. Prenez l'exemple d'un Léonard de Vinci, prenez l'exemple d'un Picasso, prenez l'exemple de tout un tas d'artistes, parce que ce sera peut-être plus parlant ainsi, mais on pourrait aussi parler de Jean Nouvel, par exemple, qui est un des architectes français les plus connus au monde, qui a créé, d'ailleurs, je vais citer un de ses ouvrages du côté de l'ouest de la France, qui s'appelle le Palais de Justice à Nantes. D'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, reprenez-moi si jamais je me trompe, et on corrigera, c'est pas grave, mais... Voilà, ce genre de personnes sont des inventeurs. Ce sont des imaginatifs qui ont réussi à concevoir ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Ce sont des philo-cognitifs qui ont réussi à atteindre le stade de performance. Et la performance étant un état d'être et de faire confondu au plus haut degré de réussite. La majorité des gens ne fonctionnent pas comme ça, mais peut quand même se servir de son imagination, de son cerveau, de son cœur et de ses mains pour arriver à transposer ce qui fait partie de sa tête, de ses images, de ses réflexions, de ces incroyables choses qui se passent à l'intérieur, vers le monde réel, pour arriver à passer le cap de la personne qui a du mal à décrocher son téléphone envers la personne qui est capable de communiquer avec le monde entier. À savoir, est-ce que ça vous sert vraiment ? Mais là n'étant pas la question. Si vous imaginez des choses, c'est parce que ça vous fait rêver, c'est parce que ça vous fait grandir, c'est parce que ça vous fait découvrir. Et nous sommes des gens curieux. Nous sommes des explorateurs. J'en avais parlé d'ailleurs dans certains épisodes liés, il me semble, à la saison 3, à la fin. Je vous invite d'ailleurs à écouter La conviction d'y arriver, épisode 126, et Le plan en construction, épisode 127, et L'autoroute du succès, l'épisode 128. Qui donne une trame pour se lancer et pour s'y mettre, pour faire, pour traduire tout un tas de pensées, de pensées imaginaires en action, avec une mécanique de réussite, puisque par défaut, vous allez réussir en faisant et en persévérant. Je vous invite à me partager vos réflexions, vos retours, de vive voix sur l'application Encore de Spotify ou bien même sur la page Les Doigts dans le Miel sur le compte Instagram du même titre, Les Doigts dans le Miel, en commentant l'épisode du même numéro. Nous sommes à l'épisode 294 et le prochain épisode, c'est d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'accompagnement, d'aller chercher de la co-construction, d'aller chercher à faire à plusieurs, parce que les autres sont à mon service pour que moi aussi je puisse donner, mais mieux. C'est pas tout d'avoir les autres à son service. On le fait parce qu'on est capable d'apporter de la valeur. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.